en direct
par téléphone Vinciane Després pour nous parler de son livre « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ?» édité aux empêcheurs de penser en rond. C'est actuellement en librairie. Merci beaucoup Vinciane Després d'être avec nous.
Merci à vous.
J'aimerais pour commencer parler d'un cas précis. Votre livre est un abécédaire, donc on peut en faire une lecture aléatoire. Et j'aimerais qu'on rentre directement dans le concret pour que les auditeurs comprennent bien la sensibilité dans votre livre, Vinciane Després. J'aimerais que nous parlions du cas de Temple Grandin. C'est une Américaine. Elle est autiste.
C'est une Américaine, c'est une spécialiste de l'élevage. Oh. Alors, ce que j'appellerais spécialiste de l'élevage, elle est ingénieure. Et c'est elle qui est actuellement la personne la plus réputée aux États-Unis pour des conceptions extrêmement intelligentes et extrêmement attentives au bien-être de l'animal, de conceptions donc d'enclos, de dispositifs de contention pour les animaux, de dispositifs pour les amener éventuellement à aller dans un camion ou à se diriger dans un lieu où on doit les soigner, etc. Et Temple Grandin, en fait, elle est non seulement une excellente ingénieure qui s'est fait une réputation internationale, mais elle dit aussi que si elle est aussi douée pour ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle voit le monde en images. Et si elle voit le monde en images, elle arrive donc à le voir un peu comme les animaux dont elle a à s'occuper le voient. Donc elle raconte que bien quand une vache, par exemple, doit franchir un passage de route ou un passage de couloir où il y a des taches lumineuses et des taches d'ombre, bien, Temple Grandin dit, moi je le vois comme la vache le voit, c'est-à-dire en fait que les taches d'ombre, eh bien c'est pas du tout des taches, c'est perçu comme des ravins très profonds. Alors là, jusqu'à présent, bon, on a affaire à peut-être cette figure un peu habituelle de l'empathie, on aurait donc affaire à une femme qui sait se mettre à la place des animaux, mais c'est pas tout. Ce que Temple Grandin dit, c'est si moi je vois le monde en image, comme les animaux voient le monde en image et pas comme de façon analytique comme nous le voyons, nous, enfin comme les humains le voient d'habitude, c'est en fait parce que je suis autiste. Et le fait que je sois une autiste, précisons-le Asperger, eh bien fait de moi un être un peu exceptionnel, c'est-à-dire qui voit des choses que les autres ne voient pas, qui comprend des choses que les autres ne peuvent pas comprendre, mais qui en revanche aussi ne peut pas comprendre des choses que les humains comprennent, en tout cas les humains de sa propre culture comprennent, ce qui d'ailleurs lui avait fait un jour dire à Oliver Sacks, ce qui donnera le titre d'un de ses livres, moi je me sens un peu comme un anthropologue sur Mars quand je parle avec des autres, parce que je ne comprends pas très bien les émotions et les complications relationnelles dans lesquelles ils sont entraînés. Et donc Temple Grandin va considérer que, d'une certaine manière, de la même, les autistes sont comme des génies, ben, en effet, certains, en tout cas les Asperger peuvent faire des choses qui ne sont pas à la portée des autres personnes. Et elle dit, peut-être qu'il faudrait apprendre à considérer que les animaux aussi sont des génies, puisqu'ils peuvent percevoir des choses, faire exister un monde que les humains ne peuvent pas percevoir. Et quand on dit, tiens, c'est bizarre, le petit monde secret des enfants autistes ou le petit monde secret des animaux, ben elle dit, ben c'est, là, on se trompe complètement. Au contraire, c'est un immense monde, en fait, qu'il y a autour de ces enfants autistes et de ces animaux, qui n'est pas du tout un petit monde, et qui est un monde de perception auquel nous n'avons pas accès.
Oui, parce que comme vous dites un autre moment du livre, les animaux sont des penseurs visuels,
oui.
Et nous sommes des penseurs verbaux.
Oui, c'est ça.
Et c'est une différence essentielle entre l'animalité et l'humanité.
Tout à fait. Et en tout cas, l'animalité, je vais dire en général, hein, parce que ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait reprocher à Temple Grandin, c'est qu'elle a une vision très générale de l'animalité, mais on peut considérer que si elle parle des vaches et des cochons, là, ça reste tout à fait plausible. Ce sont des animaux très particuliers qui ont vécu et qui ont été domestiqués par l'être humain. Et c'est vrai que ça modifie absolument tout. Ils sont non seulement des penseurs visuels, c'est-à-dire qu'ils voient le monde en images, et ça veut dire aussi qu'ils ne reconstruisent pas au départ d'un détail un ensemble de figures. Non, au contraire, ce que Temple Grandin dit, c'est qu'ils perçoivent tous les détails. Chaque détail va débouler et va prendre toute sa force et toute sa puissance en tant que détail et va occuper toute l'image. Et chaque détail se bouscule pour occuper toute l'image. Alors là, c'est en effet une transition qui tient bien et qui tient d'autant mieux puisque c'est efficace. Je veux dire, quand Temple Grandin passe dans un élevage et voit ce qui ne va pas, en général, les choses vont mieux après. Alors, là où on peut peut-être la dépasser, je veux dire, mais c'est pas la dépasser qu'on va faire, c'est juste dire, attention, n'oublions pas aussi que les animaux sont aussi des penseurs olfactifs pour la plupart d'entre eux, ce sont des penseurs auditifs, Et c'est vrai que s'ils sont des penseurs visuels, ben, ça dépend de quelle vision va-t-on parler. Je trouve que, par exemple, je viens de lire le livre d'Éric Baratet, qui s'est chargé de reconstruire une histoire du point de vue de l'animal. Bien, Éric Baratet va vraiment s'attacher à essayer de penser, mais qu'est-ce que ces animaux voient? Les chevaux dans la mine, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, on se rend compte que non seulement les animaux peuvent être des penseurs visuels, mais que même ce qu'ils voient, c'est pas seulement une différence entre une façon de penser et d'analyser le monde autour de soi, c'est aussi peut-être une différence dans le fait, par exemple, d'avoir les yeux sur le côté ou les yeux devant soi, d'avoir une vue latérale très, très, comme beaucoup de proies herbivores, d'avoir une vue latérale extrêmement large, par contre, avoir une vue focale pas très, très bonne, alors que nous avons une vue focale bonne. Et toutes ces choses-là vont aussi apporter.
Le livre de Baratet est un livre important. On l'avait chroniqué d'ailleurs ici. C'est vrai qu'on y apprend beaucoup de choses, notamment sur l'histoire avec les animaux domestiques.
Oui, tout à fait.
Alors, j'aimerais qu'on continue sur ces animaux qui voient en image et sur comment voient-ils nos corps. Là, c'est la partie où du coup, on confronte, où des primatologues vont confronter leur corps avec des singes, on reste donc avec des animaux de nos tailles, hein. Les vaches avec Temple Grandin, là les singes, vous parlez assez longuement de deux primatologues, Barbara Smuts et Charles Strum. Comment ont-elles utilisé leur corps pour se faire adopter par des singes? Et comment les singes ont-ils vu leur corps?
Alors, le premier cas de figure qui est un cas absolument, je trouve, exemplaire, le second apparaît plus anecdotique et demande de plus spéculatif. Donc, on va commencer par le cas de Barbara Schmutz, qui raconte que quand elle est arrivée sur le terrain, elle était toute fraîche émoulue de l'université, et donc elle a essayé de pratiquer ce qu'on appelle l'habituation avec les babouins, puisque c'était des babouins qu'elle observait. Et le processus d'habituation consiste à essayer de s'approcher progressivement de plus en plus près, de telle sorte à pouvoir être très près des babouins pour les observer et sans les déranger, sans qu'ils remarquent même votre présence. Le but de la manœuvre, c'est presque celui-là. Ils ne doivent presque pas remarquer votre présence, vous devez être là et ils doivent pouvoir vaquer à leurs occupations. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, sauf, disait Barbara Schmutz, que la manière dont on nous demandait de le faire, en fait, là, il y avait un problème. C'est qu'on nous disait, on nous a appris à l'université, que pour essayer de ne pas perturber les babouins et pour essayer surtout de ne pas interagir avec eux, parce que ça fait partie non seulement des codes épistémologiques de non-perturbation, mais peut-être aussi des codes épistémologiques d'objectivité et de garder la nature à distance. Parce qu'il y a encore tout cet arrière-fond de choses qui continuent à imprimer les recherches. C'est que les babouins doivent se comporter comme des êtres naturels et l'objectivité demande qu'il n'y ait pas trop de contact et pas trop d'interaction. Alors, on lui avait donc appris à se comporter, comme elle le dit, comme un roc, c'est-à-dire comme si elle n'était pas là, comme une pierre, ne pas interagir avec les babouins, ne pas leur jeter de coups d'œil ni rien, et donc faire vraiment comme si elle n'était pas là. Or, se rend-elle compte assez rapidement, ça marche pas. En fait, les babouins continuent à se méfier d'elle et sont pas du tout prêts à la laisser approcher. Et elle va se rendre compte qu'en fait, il semblerait qu'il y a un souci avec cette méthode d'habituation qui se veut si objectivante, malgré les contacts rapprochés, et si naturalisante en quelque sorte. C'est que, en fait, on va sur le terrain pour poser une question aux babouins. Les babouins sont-ils des êtres sociaux et comment sont-ils des êtres sociaux? Et on ne se rend pas compte, en fait, que les babouins, ils se posent exactement la même question à propos du chercheur. Mais que autant le chercheur peut répondre « oui, les babouins sont des êtres sociaux », autant les babouins peuvent répondre à propos de leur chercheur qui se comporte de manière aussi bizarre et aussi peu sociale en fait, que les humains, ce sont vraiment des êtres étranges et qui ne se comportent pas vraiment convenablement et qui n'ont pas encore appris les codes de l'hôte poli chez les babouins ou en tout cas chez les êtres sociaux. Et ça, Barbara Schmutz va se dire « bon, mais on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer à miser sur le fait d'une certaine manière, et ça c'est sur ces mots, que les babouins vont être indifférents à l'indifférence. Comme êtres sociaux, on ne peut jamais espérer qu'un être social soit indifférent à l'indifférence. Une indifférence, c'est jamais de la neutralité. Une indifférence, c'est se confronter d'une manière sociale à un autre et une manière sociale extrêmement désagréable pour l'autre. » Et donc ce que Barbara Schmutz va se dire, c'est « mais finalement, si je veux avoir une chance d'approcher mes babouins, il faut que j'apprenne les codes qui régulent la conduite d'un hôte poli chez les babouins. » Et elle va commencer à complètement modifier son propre corps Et elle va commencer à bouger comme un babouin, à s'asseoir comme un babouin, à apprendre à lancer des regards de babouin, à rendre des regards de babouin. Et ce qu'elle racontera, c'est qu'au fur et à mesure où elle va progresser dans cette façon de se défaire elle-même, hein, c'est vraiment le terme anglais est très très joli, il dit « undo », c'est vraiment se défaire, se démembrer et se refabriquer, se refaire avec un corps de babouin, eh bien, va finir par encourager ces babouins à la considérer non plus comme un objet à éviter, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans une inversion superbe des rapports normalement animaux-humains, puisque d'habitude c'est nous qui considérons les animaux comme des objets, et bien sûr nous sommes des sujets, et ça ne doit faire aucun doute pour les animaux, hein, nous sommes assez arrogants sur cette question, et Barbara Schmitt va dire non, en fait moi j'étais un objet à éviter pour les babouins, et une fois que j'ai commencé à apprendre à bouger mon corps et à m'adresser à eux, et à parler avec eux, enfin à parler avec le langage du corps et avec le langage des yeux, eh bien je me suis retrouvée à être définie et je pouvais le percevoir comme un sujet et un sujet avec qui ils pouvaient communiquer. Et elle dit que, par exemple, le jour où elle a vraiment considéré sa victoire, c'est quand ils ont commencé à lui lancer des regards mauvais pour lui dire qu'elle ne devait pas s'approcher certains jours. Et donc lui lancer des regards mauvais, ça voulait dire qu'elle était une personne avec qui on pouvait interagir et à qui on peut dire « Attention, aujourd'hui c'est pas le moment, on est de mauvaise humeur ou il y a trop d'enjeux, ne te mêle pas de ça. » Donc ça fait du côté de Barbara Schmitt. Alors du côté de Shirley Strum, on est avec la même génération de primatologues. Elles ont fait leur terrain à peu près en même temps. Ce sont toujours des babouins. Et Shirley Strum va faire un travail absolument fabuleux et extrêmement novateur avec ses babouins. Elle va découvrir des choses qui vont vraiment modifier grandement le terrain de tout ce qu'on savait sur les babouins, notamment à remettre en question la hiérarchie et des choses comme ça. Alors, Shirley Strum, pour préciser, quand elle va arriver sur le terrain, elle est début des années 70, et elle va succéder à un jeune chercheur qui lui avait dit que les babouins, ce sont des gros bagarreurs, ils pensent jamais qu'à ça. Et il faut prêter attention, ils pourraient être très dangereux. Donc, moi, dit-il, je ne suis pas sortie de la camionnette, je reste bien à distance. Et puis, elle va faire comme cela pendant quelques temps, et puis elle va se rendre compte que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas aussi simple que ça, que les babouins ne sont pas occupés à se battre toute la journée. Et elle va prendre le risque de sortir de la camionnette, et puis elle va prendre le risque de l'habituation. Et comment est-ce qu'elle va prendre le risque de l'habituation? Elle va prendre le risque en regardant, il y a justement un babouin qu'elle appellera Ré, qui est en train d'entrer dans la troupe à ce moment-là. Et elle va copier tous les gestes de Ré. Elle va exactement faire comme lui a fait. Et donc, elle va essayer de devenir exactement un peu à la manière de Barbara Schmitt, c'est-à-dire apprendre comment on se comporte poliment chez les babouins. Et puis, un beau jour, elle va se poser une question. C'est la question qui m'a intéressée dans le cadre du chapitre que j'ai écrit sur les corps dans l'abécédaire. C'est de se dire, mais finalement, quand je dois uriner, je m'arrange toujours pour retourner vite, aller derrière ma camionnette qui est assez loin, hein, la gare assez loin, cette camionnette, pour ne pas déranger les babouins. Mais, dit-elle, c'est toujours évidemment embêtant d'aller si loin, on perd pas mal d'observations. Et moi, je peux vous dire, qui ai été moi-même sur le terrain à un moment donné et qui ai interrogé pas mal de chercheurs, je peux vous dire que quand on s'en va, même pour 5 minutes, on a l'impression que c'est à ce moment-là qu'ils vont faire une invention extraordinaire, qui vont manifester une socialité qu'on n'a jamais vue et qui vont faire des choses qu'ils ne feront plus jamais dans leur vie et qu'on ne comprendra plus rien après à cause de ce qu'on a manqué. Et donc, c'est toujours très difficile de partir même 5 minutes. Et donc, à un moment donné, elle s'est dit, bon, mais est-ce que je peux uriner devant les babouins? Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant le fait que déjà, elle puisse se poser cette question-là. C'est se dire, est-ce que c'est poli? Est-ce que c'est bien dans les usages? Donc, c'est pas une question simplement d'objectivité, etc. C'est vraiment une question de, tiens, mais qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui se fait chez ces êtres-là qui ne sont pas comme nous. Et puis un beau jour, elle va dire, je prends le risque, et elle va uriner devant ces babouins. Et elle va dire, ben, ils vont être absolument stupéfiés par le bruit que j'ai fait. Et puis, après, ils n'y prêtent plus du tout attention. Et moi, je faisais une petite spéculation, c'était un peu dans la lignée des analyses que Vivero de Castro faisait à propos de la rencontre des Portugais et des Amérindiens. Je n'ai pas du tout à comparer des Portugais ou des Amérindiens à des babouins ou à des primatologues, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était intéressant dans cette rencontre, c'était qu'on avait constaté que si les Portugais se posaient la question de savoir si les Amérindiens avaient une âme, les Amérindiens se posaient la question de savoir si les Portugais avaient un corps et s'ils étaient des êtres comme beaucoup d'êtres dotés d'un corps. Et je me suis dit, mais tiens, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que les babouins doutaient du fait que Shirley Strum et que les humains en général aient un corps parce qu'ils ne les voient jamais ni manger, ni dormir, ni uriner, ni rien. Et que peut-être que les babouins ont découvert ce jour-là qu'en fait l'observatrice qui était avec eux avait un corps. Et peut-être que c'est pas anodin, Parce que comme les babouins, dans leurs transactions et leurs négociations, c'est avec le corps qu'ils négocient, puisque c'est un monde relativement pauvre en objets, et c'est donc avec le corps qu'on est tout le temps en train de négocier, avec des yeux, avec des épouillages, avec des gestes, etc. Peut-être que découvrir que Shirley Strum avait un corps a peut-être fait quelque chose qui a d'autant plus favorisé la bonne relation qu'elle a pu établir avec ses babouins.
Eh bien, je vais continuer sur cette lancée en déviant légèrement, notamment par l'usage que vous faites de la science-fiction. Il y a plusieurs occurrences où vous parlez des extraterrestres, une extension presque de la science-fiction, notamment dans cette partie sur la possibilité que des extraterrestres préfèrent rencontrer des vaches. Vous en parlez dans cette partie avec Temple Grandin qu'on a parlé au début de l'émission. Mais sur l'usage de la SF, dans cette partie sur les xénogreffes, peut-on vivre avec un cœur de cochon? Vous commencez par parler d'un livre, Le cycle d'Under, d'un auteur qui s'appelle Orson Card, qui parle des piggies, qui sont des sortes de cochons qui ne sont pas humains et qui vous ont... Ce livre-là vous a permis de penser avec un être étrange qui, lui, existe dans la littérature scientifique, qui s'appelle Galco, un cochon créé pour pouvoir faire des xénogreffes. Voilà, je trouve que c'est en lien avec ce dont vous parliez, des rencontres avec les Amérindiens, par exemple, là, les rencontres avec les extraterrestres. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que la science-fiction, en tant que imaginaire, de création d'imaginaire, notamment d'imaginaire vers l'autre ultime, qui peut être l'extraterrestre, par exemple, en quoi cela peut vous aider? En quoi la fiction, la science-fiction, peut vous aider dans vos recherches sur l'animal? Qui est un autre aussi, enfin, que ce soit un extraterrestre ou un animal, c'est un autre pour nous.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que je me suis quelquefois je me suis appuyée sur la science-fiction, pas servie, je me suis plutôt appuyée dessus. Alors, je dirais peut-être deux choses, parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup réfléchi à cette question, mais je vais essayer de faire un peu d'improvisation. D'abord, peut-être que je dirais, il est vrai qu'avec la science-fiction, on est dans l'imaginaire, mais moi, j'ai le sentiment qu'on est surtout dans l'imaginable. C'est-à-dire quelque chose qui nous demande non pas un effort, qui nous demande non pas de pouvoir imaginer n'importe quoi, mais qui nous demande un effort d'imagination pour faire une expérimentation de pensée. Et là, je pense que là, je suivrai plutôt la proposition qu'Isabelle Stengers faisait à propos de la science-fiction. Hein, la science-fiction, c'est une expérimentation. Et si on a ça, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Il y a des tas d'expérimentations. Moi, je signale à propos de Temple Grandin, justement, cette science-fiction qui parle de cet ambassadeur qui est envoyé sur une planète où les gens n'ont pas du tout les mêmes émotions personnelles comme nous. Mais qu'est-ce qui se passe si on se retrouve confronté à des gens qui ont un registre d'émotions qui n'est rien de personnel? Voilà ce qu'on peut imaginer. Et donc, c'est plutôt un effort d'imagination plutôt que partir vers l'imaginaire. Et si moi, je me suis appuyée sur la science-fiction, c'est parce que très souvent, dans des cas comme par exemple les greffes, comme par exemple les organismes génétiquement modifiés, etc., on se retrouve avec des jugements trop rapidement moraux. C'est bien, c'est mal, on a peur, donc vous êtes soit technophile, soit technophobe. Et je trouve qu'il y avait comme ça une espèce de manichéisme qui écrase toute forme de pensée, une espèce d'oubien ou bien. Alors qu'avec la science-fiction, les choses... Quand les auteurs font bien leur travail, je pense notamment au cycle d'Ender, je pense à David Brin notamment, je pense à Ursula Le Guin, enfin je pense à quantité de ces auteurs, quand ils font bien leur travail, il n'y a plus moyen d'être aussi simplement entre bien, mal, entre désirable, pas désirable, etc. On est dans un réseau de relations qui modifient des êtres et par lesquelles les êtres se modifient, c'est des ressources quand même de la science-fiction, où les choses deviennent extrêmement compliquées, et où on ne peut plus rien juger aussi simplement que ça, où les êtres doivent travailler des expérimentations et des expériences dont on ne peut dire à propos d'aucune, si ce n'est quelques-unes, bien sûr, parce qu'il y a toujours des... Mais on ne peut pas dire aussi simplement c'est mauvais. En fait, ce que j'essayais de dire, c'était que ce que la science-fiction peut-être fait pour nous, c'est nous apprendre, nous aider à accueillir... En fait, on n'est pas prêt à accueillir ces êtres comme Galco. En tout cas, on les accueille très mal. On les accueille comme des choses et pas du tout comme des êtres dont il faudrait apprendre à partager en quelque sorte le destin, parce qu'ils vont nous accompagner et ils vont nous accompagner pour faire des choses pour nous. Et donc pour moi, c'était important parce que la science-fiction, ce qu'elle a réussi à bien mettre en scène et ce qu'elle nous oblige à imaginer, c'est le fait d'accueillir des êtres nouveaux et de créer ce que Donna Haraway appelait des relations entre espèces compagnes.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.